Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonjour, madame, messieurs, bienvenue au journal dont voici la une. À Arbinda, dans le Soum, une cinquantaine de femmes sont portées disparues. Elles ont été enlevées par des hommes armés. L'information est confirmée par le gouverneur de la région du Sahel. À Waïguia, la région du Nord demande plus de sécurité. Des centaines de personnes étaient dans la rue hier. Elles se disent excédées par les attaques terroristes et les déplacements massifs qui en résultent. La situation sécuritaire, justement, elle n'est pas reluisante et il faut le reconnaître. L'avis de Herman Yameogo, président de l'UNDD, sur la situation nationale. Il prône la réconciliation nationale et une solidarité africaine pour faire face au terrorisme. C'est notre invité du jour, entretien en fin d'édition. Et puis en RDC, au moins 14 morts et 63 blessés selon un dernier bilan de l'attentat qui a visé une église dans l'est du pays hier. Attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Madame, messieurs, vous suivez Radio Oméga et vous faites bien. Bonjour, bienvenue aux infos. C'est désormais une information officielle, une cinquantaine de femmes enlevées jeudi et vendredi dans les environs de Arbinda, dans la province du Soum, région du Sahel. L'information a d'abord été rapportée par l'AFP qui cite des sources locales. Dans un communiqué, ce lundi, le gouverneur de la région du Sahel confirme les faits. Des épouses, mères et filles ont été injustement prises à partie, estime le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, le gouverneur donc de la région du Sahel. Yaya Diomandé nous en dit plus.
Le gouverneur de la région du Sahel a confirmé lundi 16 janvier l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes entre les 12 et 13 janvier à quelques kilomètres de Arbinda dans la province du Soum. Une cinquantaine de femmes ont été respectivement enlevées par des groupes armés terroristes à une quinzaine de kilomètres de Arbinda et dans une autre localité située au côté ouest de Arbinda, dans la province du Soum, a écrit le lieutenant-colonel Rodolfo Sorgo dans un communiqué. Sur les circonstances de cet enlèvement, le communiqué explique que ces femmes ont été enlevées par des hommes armés alors qu'elles étaient à la recherche de fruits sauvages. Le gouverneur a rassuré que tout est mis en œuvre pour les retrouver. Dès leur disparition signalée, des recherches ont été entreprises en vue de retrouver l'ensemble de ces victimes innocentes, saines et sauves. Le gouverneur de la région du Sahel rassure que les pouvoirs publics se tiennent à leur côté en ces moments particulièrement difficiles et demeurent engagés à tout mettre en œuvre pour une issue heureuse de la situation. Des sources locales avaient signalé dimanche ce rapt en évoquant une soixantaine de femmes enlevées. Un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé à une dizaine de kilomètres au sud-est d'Arbinda et un autre groupe d'une vingtaine le lendemain au nord de cette commune a expliqué une source locale. Un témoin a expliqué que dans les deux groupes, des femmes ont réussi à échapper à la vigilance des terroristes et ont regagné le village à pied.
Merci donc à Yaya Diomandé. Une situation sécuritaire préoccupante dans plusieurs régions du pays. À Waïguia, des centaines de personnes ont donné de la voix hier. Des populations de la région du Nord se sont rassemblées place de la Nation à l'appel du mouvement Les Patriotes du Nord pour réclamer plus de sécurité. Les responsables du mouvement déplorent des déplacements massifs de populations de plusieurs villages de la région vers le chef-lieu Waïguia. Nous avons constaté une dégradation de la situation, une dégradation de la sécurité qui est en train de prendre de l'ampleur, a signifié le secrétaire général de cette organisation Ali Badini, cité par Le Faso.net. Chaque jour, nous constatons que les villages se vident de leur population. Par contre, nous remarquons qu'ailleurs, l'État est en train de récupérer nos territoires et y installe les couleurs nationales, a-t-il ajouté. Le vœu de ces populations pourrait être réalité avec la réorganisation progressive des forces armées en vue d'un meilleur maillage du territoire. En novembre dernier, vous vous souvenez, le chef de l'État a décidé de la création de 6 légions de gendarmerie. Les commandants de ces légions ont été nommés le 30 décembre dernier. La liste des nouveaux chefs a été rendue publique. La première région de gendarmerie, basée à Kaya, est commandée par le lieutenant-colonel Koudbi Florian Tago. La deuxième, à Bobo-Dioulasso, dirigée par le lieutenant-colonel Issa Yagibou. Et le lieutenant-colonel Léonide Rakiswende Diabri commande la troisième légion, basée à Ouagadougou. À Dori, la 4e Légion de gendarmerie est commandée par le chef d'escadron, Sié Arnaud Sib. Pour la 5e Légion à Dédougou, ce sera le chef d'escadron Bapa Nyangao et Fada, 6e Légion de gendarmerie, avec pour commandant le lieutenant-colonel Kiswen Sida Wilfried Taoko. Une légion spéciale est également mise en place avec pour chef le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara. Elle se constitue des différents corps et unités spécialisées de la gendarmerie, indique un communiqué, un document pardon, de l'état-major. Omega, la suite du journal. Et on poursuit sur la question sécuritaire. L'émir du Liptako, autorité traditionnelle, s'inquiète des conséquences des exactions ciblées. Selon lui, lorsqu'on s'en prend à un groupe ethnique, cela favorise le recrutement dans les rangs des terroristes. Il était face à Denis Zungrana dans l'émission Dimanche Politique hier. Je vous invite à suivre cet extrait.
Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent impacter, parce que plus on s'attaque à un groupe, plus on rend favorable le recrutement, ça c'est certain. Nous avons tous, je pense que notre rôle à jouer. Moi je vous donne des exemples. Un chef de famille, un chef de village qui se fait enlever et on appelle ses enfants, on lui demande de s'enrôler ou bien bon, on tue leur papa. Que pensez-vous que ces enfants vont faire ? Nous vivons très mal. Je vous assure que nous vivons très mal. Personne ne peut rester insensible. Un individu qui se fait enlever, qui se fait tuer, a plus forte raison d'une famille et une communauté qui subit ces choses-là. Donc, le sentiment que j'ai, c'est vraiment aller toucher en profondeur, des choses qu'on ne peut même pas exprimer. Savoir anticiper ce qui arrive, c'est très important de savoir anticiper pour prendre en main ce qui se passe actuellement.
L'émir du Liptako sur le plateau de Dimanche Politique à propos de la dégradation de la situation sécuritaire, l'émir du Liptako préconise une implication des leaders communautaires, des communautés ainsi que des forces de défense et de sécurité. Cette implication permettrait à ces leaders d'apporter leur réflexion dans le processus de la reconquête du territoire national. Suivez cet extrait.
Je pense que les autorités gagneraient plus à demander l'accompagnement des leaders communautaires, plus à les impliquer. Par exemple, ne pas prendre une décision et, demander aux gens, suivez-nous. Mais qu'est-ce que vous pensez ? C'est-à-dire co-créer la sécurité plutôt que de créer une sécurité et venir nous imposer, alors que souvent ce n'est pas adapté. Nous, on a parlé de dialogue. Nous, en tant qu'autorité coutumière, nous avons proposé qu'on nous donne le cheminement de ce dialogue. Alors, quand nous parlons d'un cheminement de dialogue, ça veut dire que d'abord, c'est hors micro, hors caméra, qu'il faut faire présenter les dialogues. Et aussi, il faut impliquer les leaders communautaires, impliquer les personnes en armes qui se battent contre le phénomène, parce que ce sont des personnes qui ont perdu des frères d'armes.
Il s'agit donc de Ousmane Amirou Diko, autorité coutumière du Liptako. Il était l'invité de Dimanche Politique hier. Il était reçu par Denis Zungrana. Dans l'actualité internationale de ce lundi, en RDC, le bilan s'alourdit au lendemain d'une attaque terroriste dans le Nord Kivu. Au moins 14 personnes ont été tuées, 63 autres blessées dans l'explosion d'une bombe dans une église évangélique dans l'est du pays. Hier soir, le bilan faisait état d'au moins 10 morts et 39 blessés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Selon le groupe terroriste, l'attentat a fait près de 20 morts. Dans une note aux médias, le gouvernement a condamné vigoureusement l'attaque qu'il a attribué aux combattants de l'ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe rebelle islamiste ougandais actif dans l'est du Congo depuis une trentaine d'années. L'ADF est affilié depuis 2019 à l'État islamique.
Omega Sport.
Actualité sportive sur Radio Omega, un Burkinabé dans le championnat anglais. Dango Ouattara est en passe de s'engager avec Bournemouth, et devrait passer sa visite ce vendredi même. Il pourrait jouer la deuxième partie de la saison. Dans le reste de l'actualité sportive, il est question de la victoire du Barça en Coupe du Roi d'Espagne et bien évidemment du championnat national de football, toujours dominé par l'AS Douane Bernabé Cabri.
Révélation du début de saison en France avec 6 buts et 6 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1, Dango Ouattara affole le championnat anglais. Everton, Leicester et Bournemouth s'étaient notamment positionnés avec des offres supérieures à 20 millions d'euros. De grosses sommes pour un joueur encore méconnu il y a 6 mois et qui ont fini par faire craquer Lorient. D'après plusieurs médias français et anglais, Dango Ouattara va être transféré à Bournemouth dans les prochaines heures. Le Burkinabé est attendu aujourd'hui même en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Les deux clubs auraient trouvé un accord à hauteur de 27,5 millions d'euros, bonus compris, près de 18 milliards de francs CFA. Xavi tient son premier titre en tant qu'entraîneur avec le FC Barcelone. Hier, les Catalans ont remporté la Supercoupe d'Espagne en infligeant une leçon au Real 3-1. Il s'agit aussi du premier titre du Barça depuis le sacre en Coupe du Roi en avril 2021, le premier donc depuis le départ de Lionel Messi. En Angleterre, Arsenal, vainqueur de Tottenham 2-0, reste en tête du championnat avec 8 points d'avance sur Manchester City, battu 2-1 par son rival Manchester United. Défaite du PSG 1-0 devant Rennes, deuxième défaite des Parisiens qui possèdent maintenant 3 points d'avance sur Lens et 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. On tient la première surprise du championnat d'Afrique des Nations. Alors que personne ne donnait cher de sa peau avant de disputer le premier match de son histoire dans la compétition, Madagascar a créé la sensation en battant le Ghana hier soir 2-1 dans le groupe C à Constantine. Le Ghana devra impérativement se rattraper jeudi face au Soudan, exempté de la première journée dans ce groupe réduit à 3 équipes suite au forfait des Lions de l'Atlas du Maroc. Aujourd'hui, 2 matchs sont au programme, Mali-Angola à 16h et Cameroun-Congo à 19h. Championnat burkinabé à présent, l'AS Douane est toujours en tête après la 16e journée qui s'est disputée ce week-end. Les Gabelous ont été sans pitié pour Royal FC 4-0 et prennent ainsi 8 points d'avance sur leur nouveau dauphin Salitas FC qui a dominé l'AS Police 4-2. De son côté, Vitesse FC est relégué à la 3e place du championnat après sa défaite 2-1 face à l'ASFB. L'EFO et l'ASFA poursuivent leur série noire. L'EFO a été battu par le Majestic 1-0 et l'ASFA dominé par le RCB sur ce même score. L'EFO est 15e et l'ASFA 13e. AS Sonabel USFA, un but partout. 0-0 entre le Real du Faso et le RCK et succès de Raïmo FC, 4-0 face à la SEC de Kudougou.
La revue de presse.
À la une des quotidiens du jour, l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes à Arbinda et pour lutter contre le terrorisme, l'Express du Faso propose un dialogue véritable avec les terroristes. À l'international, nos éditorialistes nous conduisent au Mali. Le pays fête une année de résistance populaire et de résilience face aux pressions extérieures, notamment aux sanctions décrétées par la CEDEAO. Il y a une revue de presse de Valérie Guéret.
Arbinda, c'est le nom de cette localité située dans la province du Soum qui fait la une de nos quotidiens du jour. Ces quotidiens, selon plusieurs sources locales, font cas de l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes dans cette commune. Quels sont les auteurs de ce rapt qui a eu lieu à environ 90 km de Djibo? S'agit-il d'une riposte de ces groupes aux opérations de sécurisation en cours et en préparation dans cette région? S'interroge aujourd'hui au Faso qui foisonne les questions. En tout cas, pour le journal Le Pays, ce rapt massif est la preuve que la situation sécuritaire demeure préoccupante. C'est un caillou de plus dans les godasses du capitaine Ibrahim Traoré, fait remarquer le journal des 1200 logements. On peut donc imaginer l'angoisse actuellement ces jours-ci dans cette partie du pays, souligne l'Express du Faso, qui dans le même ordre d'idées propose un dialogue véritable et sincère dans la lutte contre le terrorisme. Malgré la situation sécuritaire sans précédent qu'il traverse, le Burkina est toujours fréquentable sur le plan diplomatique, estime Sidoya qui pense que notre chère patrie retrouve sa ferveur diplomatique et compte saisir toutes les opportunités pour montrer à ses partenaires sa volonté de restaurer sa paix et sa stabilité d'antan en se débarrassant des terroristes qui l'assaillent, en se donnant les moyens pour le faire. C'est pourquoi le journal Le Quotidien salue cette visite de la patronne de la diplomatie burkinabé en Guinée, où elle a pu rencontrer les plus hautes autorités du pays. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, tous des pays en transition, doivent donc se donner la main et même mener le même combat. Cette vision prospective actuelle des autorités n'est rien d'autre qu'une volonté de changer de fusil pour une coopération sud-sud au profit des peuples, conclut ce canard. Et nos auditorialistes nous amènent au Mali qui a célébré le 14 janvier dernier la souveraineté nationale. Vous avez dit souveraineté nationale, se demande le pays qui dégage deux clans opposés, à savoir les Goïtaphiles qui ne veulent pas entendre de voix dissonantes, tandis que les Goïtaphobes estiment en effet que rien que la présence massive des forces internationales de maintien de la paix au Mali est une sérieuse entorse à la souveraineté du pays. Une souveraineté nationale retrouvée que d'aucuns Maliens, et pas seulement eux, s'interrogent quand on sait que le nord et le centre du Mali souffrent toujours du terrorisme et surtout de l'absence d'État renchéri aujourd'hui au Faso. Et ce n'est pas tout pour notre confrère qui reprend les propos du président du Haut Conseil islamique, Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui avait laissé entendre en fin décembre que ça ne va pas, tant sur le plan sécuritaire qu'alimentaire au Mali. Mais s'agit-il d'un divorce entre la transition et ses personnalités religieuses très influentes? Seul l'avenir nous le dira.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est Maître Herman Yameogo, président de l'UNDD, Union Nationale pour la Démocratie et le Développement. Avec lui, il est question de la situation nationale marquée par la lutte contre l'insécurité. Et selon Herman Yameogo, la situation n'est pas reluisante et il faut le reconnaître. Pour inverser la tendance, il prône la réconciliation nationale et une solidarité africaine. Herman Yameogo qui répond aux questions de Lamine Traoré.
Bonjour Herman Yameogo.
Bonjour.
Comment Herman Yameogo se porte?
Oui, ça va. Herman Yameogo se porte très bien.
Et votre parti, l'UNDD, l'Union Nationale pour la Démocratie et le Développement?
Bon, le parti, bon, il faut tenir compte des conditions objectives de la vie politique nationale. Il faut tenir compte également des restrictions qui sont tombées par rapport aux partis politiques. C'est dans ce contexte-là qu'on vit comme on peut, difficilement. Au jour d'aujourd'hui, l'actualité, la priorité n'est pas du tout au monde partisan. La priorité est de travailler à ce qu'il y ait un sursaut populaire pour le sauvetage de la nation, un sursaut populaire qui nous amène à défendre les principes de laïcité, les principes de la République et les principes de la démocratie, les libertés religieuses. C'est ça, c'est sur ça que nous devons actuellement nous appesantir. Et non pas tellement sur le retour à un certain libertinage partisan.
Alors, deux coups d'État en 2022, comment vous avez suivi tout cela?
Bon, il faut dire que le premier coup d'État pour nous, c'était un coup d'État de rectification, c'était un coup d'État salvateur dans la mesure où le régime qui était en place, nous avons tout fait, nous avons fait des appels du pied pour qu'il y ait vraiment un dialogue qui aille dans le sens de la réconciliation. Ça n'a pas eu lieu finalement. Bon, le second coup d'État, nous pensions que ça allait suivre la même ligne, mais on voit plutôt qu'il y a des déviances. On voit que ce n'est pas pour revenir à la réconciliation, à la refondation, mais c'est pour autre chose, c'est regrettable. Une succession de coups d'État comme cela, placer le Burkina Faso dans le hit-parade des coups d'État de ce genre-là, ce n'est pas tellement honorable, ça ne nous aide pas au développement.
Le deuxième coup d'État, celui du capitaine Traoré, vous sembliez accompagner au départ en lui demandant de s'assumer, alors qu'il n'était même pas encore désigné comme président de la transition.
Oui, absolument, puisque le premier coup d'État pour nous, il venait quoi, pour faire la réconciliation, pour faire la refondation, restaurer l'État. Et pour nous, il fallait soutenir, il fallait ouvrir la voie après à la démocratie renouvelée. Donc, quand il n'a pas bien fait les choses et qu'il y a eu des bisbilles entre eux et qu'il y a eu le second coup d'État, la parole a été donnée de respecter toujours les mêmes principes, la réconciliation et la cohésion nationale. C'est pour cela que nous avons donné notre accord. Le nom était préservé, les principes étaient préservés. Nous avons donné notre accord pour l'appuyer, qu'il soit là, pour continuer le travail qui avait été entrepris, mais qui avait été mené à son terme. Voilà notre position.
Herman Yamero, la raison de ces coups d'État, c'est l'insécurité. Comment vous jugez aujourd'hui cette situation sécuritaire?
C'est l'argument qu'on avance. Moi, en tant que Herman Yamego, je me dis peut-être qu'il faut aller un peu plus loin, que la question sécuritaire qui peut être un alibi, peut-être qu'il y a d'autres raisons profondes. Donc ça, vous, journalistes, hommes politiques, chercheurs, il faut creuser pour aller plus loin. Parce que ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il faut voir les choses.
Ce n'est pas à ce niveau, mais justement, ça nous renvoie à cette question. Vous affirmez, vous parlez de génocide, c'est ça?
Absolument. Il faut voir les choses en face. Je ne parle pas en l'air. Je mets les gens au défi d'aller dans le sens contraire de ce que je dis. Moi, je parle sur la base de textes.
Vous avez en mémoire les derniers événements de Nouna où des peuples ont été massacrés?
Nous avons dénoncé ça depuis Yergou. Depuis Yergou, nous avons dit attention, on va au génocide. Nous avons à faire face au terrorisme. C'est déjà un problème grave qui nous prend au collet, au cou. Mais il y a également le problème du génocide.
Vous avez dressé les tableaux peu reluisants du capitaine Traoré. Vous avez même tenté de faire une comparaison qu'en 3 mois, c'est que la situation est grave que sous Damiba.
En 3 mois, regardez ce qui se passe tous les jours. Tous les jours, vous ouvrez votre radio, tous les jours, vous prenez votre journal, vous allez sur les réseaux sociaux. Ce sont des villages qui se vident tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas une région Burkina Faso où il n'y a pas une implantation de terroristes. Il n'y avait pas ça il y a 3 mois. Il y a 4 mois, 6 mois, il n'y avait pas ça. Il faut dire la vérité aux gens. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Et on n'est pas seul à avoir la solution. C'est ensemble qu'on doit avoir la solution.
Alors la solution, c'est la dernière question. Maître Herman Yamego, comment fait-on pour sortir de cette situation sécuritaire difficile?
La question du terrorisme, c'est une question qui est internationale. En national, il aurait fallu qu'on se mette ensemble, qu'on règle la question de la réconciliation, qu'on libère ceux qui sont détenus, les Diendieri et les Ungrana, qu'on les fasse sortir. Et les hommes politiques qui sont là-bas actuellement, les Aristide Ouedraogo, pourquoi? Ce sont des gens qui, libérés, peuvent servir la cause nationale, qu'on les libère. C'est ensemble aussi qu'on peut lutter. L'initiative d'Accra, pour moi, était une bonne initiative. Je fais un appel au président Ouattara, je fais un appel au Bénin, au Togo, à tous ces pays qui sont membres du Conseil de l'Entente, qui sont membres d'organisations de la sous-région. Ils ont intérêt à aider à sortir de cette situation. En national, là, au niveau de l'armée, faites d'abord l'unité au sein de l'armée. Il faut réconcilier l'armée. Et dans la population ici, il ne faut pas croire que tout seul on a la solution. Il faut ouvrir un débat. Je suis inquiet de l'intrusion de l'armée en politique. Je pense qu'il faut fortement penser à ce qui rejoigne la caserne.
Merci à vous, Maître Herman Yamero.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Herman Yamego, président de l'UNDD, notre invité du jour, il était interrogé par Lamine Traoré et c'était le dernier acte de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebeogo, retransmis en direct sur Facebook par Nadège Yabré. Je suis Abdoul Fattah Tiamtouré, plaisir de vous avoir servi. Excellent après-midi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
Radio Omega, l'info en direct.